Petit ange, s'il te plaît, ne te change pas en un petit démon ou une petite peste. Évite les tendances et si y'a quelqu'un qui blesse, fais pas comme lui, venge-nous. J'ai été pris de vitesse, que mes défauts soient tes qualités. Enfance qu'on ne veut pas quitter, qui des fois souvent donnera une adolescence agitée. L'innocence, le vécu, les si j'avais su arriver du sud.
RFI 6h à Paris, 5h en temps universel et 3h à Nouk.
Andréane Mélard.
Bonjour Gaëtan Plenel.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
La menace militaire s'éloigne au Groenland.
Les États-Unis ne recourront pas à la force pour s'emparer du territoire autonome danois, c'est ce qu'a assuré Donald Trump hier. Il annonce à la place le cadre d'un futur accord après des discussions avec l'OTAN. À la une également, la crainte de failles sécuritaires dans les prisons syriennes où sont enfermés des membres de l'organisation État islamique. Certains ont pu s'enfuir dans le chaos provoqué par les combats entre l'armée et les forces kurdes. On va faire le bilan en France des audiences de Marine Le Pen au procès en appel des assistants d'eurodéputés de son parti. On parlera de la Guinée-Bissau où la junte militaire au pouvoir annonce des élections législatives et présidentielles en fin d'année. Et puis c'est une première, en 2025, les énergies renouvelables ont été la première source d'électricité dans l'Union européenne.
Du vert ce matin chez les bourses asiatiques.
À Tokyo, Séoul, Taipei, et c'était aussi le cas hier soir en clôture du côté de Wall Street, les marchés ont bondi. Ils ont visiblement suivi, comme nous, le discours de Donald Trump hier à la tribune du Forum économique de Davos, car après plusieurs jours de surenchères, de menaces militaires et commerciales, le président américain a finalement exclu d'utiliser la force pour s'emparer du Groenland, exclu aussi d'imposer des droits de douane aux pays européens qui menaçaient de lui barrer la route. Au lieu de ça, il annonce avoir conçu, au cours d'une réunion avec le chef de l'OTAN, le cadre d'un futur accord, mais sans s'épancher sur ses contours. Il y a eu des discussions, mais le sujet de la souveraineté du Groenland n'a pas été spécifiquement abordé, assure le chef de l'Alliance transatlantique, Mark Rutte, pour qui il reste encore beaucoup de travail avant de parvenir à un accord. Car le point de vue américain n'a pas changé. Les États-Unis ont besoin de ce territoire autonome danois, nous dit-on, pour des raisons de sécurité nationale et internationale. Ça ne tient pas la route, selon Philippe Golub, professeur de sciences politiques, de philosophie politique et de relations internationales à l'Université américaine de Paris.
Il y a un argument sécuritaire qui nous dit que sans la possession du Groenland, la Chine, la Russie et d'autres puissances mondiales pourraient s'emparer de la région et utiliser la région à leur propre fin. Or, les accords de 1951 entre les États-Unis et le Danemark postulent explicitement que les États-Unis peuvent déployer des forces au Groenland en accord avec le Danemark, en quantité suffisante et avec les armements suffisants pour défendre le territoire. Au fond, l'argument essentiel de cette administration vis-à-vis du Groenland, c'est que les États-Unis ont le droit à la possession territoriale de tout l'hémisphère ouest, ce qui évidemment est une caricature de historique. Personne dans le système international n'accepte ces arguments. C'est un argument de puissance qui se voulait soutenu par la coercition potentielle militaro-économique des États-Unis. Peut-être sommes-nous en train de voir une désescalade partiel, mais on remarquera quand même que la crise transatlantique est profonde et, à mon sens, durable.
Des propos recueillis par Nicolas Roca.
En tout cas, ce changement de ton américain ne modifie pas l'agenda des 27.
Le Conseil européen extraordinaire prévu ce soir est maintenu à Bruxelles, où l'on préfère jouer la prudence face à un président américain habitué des volte-face. Prudence, mais soulagement quand même au Groenland, où on a apprécié le soutien européen ces derniers jours. Attention quand même à ne pas le surinterpréter, car au-delà des enjeux géopolitiques, les habitants de l'île Arctique le rappellent à qui il veut, ils sont avant tout Inuits. Une identité, une culture, un lien à la Terre aussi, qui compte bien plus que les jeux de pouvoirs internationaux. Correspondance à Nouk d'Otilia Ferré.
Juno et Tommy, 16 ans, sortent du centre commercial et s'allument une cigarette. Le sujet de conversation est, comme très souvent, Donald Trump. La présence de militaires européens sur le sol groenlandais les rassure un petit peu et l'heure est clairement au rapprochement avec le Danemark.
Avant, je n'avais pas vraiment d'opinion sur la France, ça m'était un peu égal. Mais maintenant qu'ils nous soutiennent vraiment, je les respecte. Même si le Danemark et le Groenland ont eu des conflits, sans le Danemark, le Groenland n'est rien, nous n'aurions pas l'OTAN. Nous avons donc désespérément besoin du Danemark. C'est pour ça qu'il faut mettre de côté nos différences ou nos conflits afin de pouvoir travailler avec le Danemark pour défendre notre patrie.
On est relativement proche des Européens, mais pas tant que ça. On est purement Inuit, un peuple à part entière avec notre propre culture, transmise par le sang.
Avara Colsen, la mère de Nuuk, se dit très émue du soutien européen pour le Groenland, mais ce n'est pas pour autant qu'elle se sent européenne.
Nous ne nous sentons pas européens, mais c'est parce que nous ne sommes pas européens, et c'est légitime. Nous sommes Inuits, nous sommes Groenlandais, nous sommes quelque chose de différent de l'Islande, des îles Féroé, de la Suède et de la France, mais nous partageons beaucoup des mêmes valeurs, et nous avons aussi de nombreuses sources d'inspiration venant de l'Europe, et nous regardons beaucoup de sports européens, par exemple.
Paradoxalement, les projecteurs que Donald Trump pas braqué sur le Groenland, ont ravivé chez beaucoup un sentiment de fierté d'appartenir à la culture inuite. Otilia Ferré, Nuuk, RFI.
Et à quoi vont ressembler les prochains jours? À quoi faut-il s'attendre lors des discussions à venir entre Américains et Européens sur ce dossier du Groenland? On va poser, Andréane, la question à notre grand invité ce matin.
Oui, Philippe Etienne, ex-ambassadeur de France aux États-Unis, ex-conseiller diplomatique d'Emmanuel Macron. Il sera dans nos studios à 7h20, temps universel.
Et c'est un petit peu plus tard dans la matinée que Donald Trump participera à la cérémonie de signature de la charte fondatrice du Conseil de la paix, un organe qu'il a lui-même imaginé, une sorte de concurrent aux Nations Unies pour œuvrer justement à la résolution des conflits dans le monde. Il a invité une soixantaine de pays à y prendre part, la Russie notamment, qui aurait accepté selon le président américain. Son homologue russe Vladimir Poutine ne le confirme pas pour autant et dit seulement avoir ordonné à sa diplomatie d'étudier cette invitation.
Le commandement militaire américain pour le Moyen-Orient annonce avoir transféré 150 combattants de l'organisation État islamique.
De leur prison en Syrie vers, nous dit-on, un lieu sûr en Irak. Des milliers d'autres devraient suivre alors que les États-Unis, comme d'autres pays, s'inquiètent de possibles failles sécuritaires dans ces prisons dans le nord syrien. Les forces kurdes ont dû en partir après d'intenses combats avec l'armée de Damas qui en a donc pris le contrôle. Les militaires syriens sont par exemple entrés hier dans le camp d'Al-Hol, une prison à ciel ouvert où sont retenues plus de 24 000 personnes accusées d'avoir été membres du groupe islamiste. Terroristes sont retenus, disais-je, ou peut-être plutôt étaient retenus, Hugo De Waha.
Oui, selon l'avocat Mathieu Bagard, président de l'association Avocats sans frontières, des membres du groupe État islamique détenus dans le camp d'Al-Hol ont pu profiter de ces quelques heures de chaos pour s'enfuir.
Cette vacance un petit peu de contrôle a permis des évasions, c'est très semblable. La maîtrise était déjà pas du tout complète. Et là, cette reprise par Damas a nécessairement encore facilité, je pense, la porosité de l'entrée et de la sortie dans le camp.
Mais alors, une autre question se pose. Des ressortissants français détenus en Syrie ont-ils pu profiter de ce désordre pour prendre la fuite?
A priori, non, en effet, parce que les forces françaises ont tout fait justement pour que l'ensemble des femmes, des enfants et des hommes soient mis le plus au nord possible et dans des structures qui étaient en effet plus sécurisées, mieux tenues par les FDS.
La centaine d'enfants et les 50 femmes françaises se trouvent dans le camp de Roche, tout au nord de la Syrie et toujours sous contrôle des forces kurdes. Les hommes français, une cinquantaine, sont quant à eux dans une prison en Irak. Toutefois, un flou persiste autour de la réelle identité de certains détenus de la prison d'Al-Hol.
Il y a très vraisemblablement quand même un certain nombre de femmes et d'enfants français qui sont à Al-Hol, mais qui, en réalité, se sont présentés lors de leur arrestation sous d'autres nationalités et d'autres identités.
Aucun chiffre n'existe quant aux potentiels ressortissants français détenus dans le camp d'Al-Hol sous une fausse identité.
Et c'est l'idéologie de l'État islamique qui aurait, selon les enquêteurs australiens, motivé l'attaque antisémite du 14 décembre dernier sur une plage de Sydney. 15 personnes avaient été tuées. Jour de deuil national ce jeudi dans le pays. Les drapeaux sont en berne. Les Australiens sont invités à respecter une minute de silence et à allumer des cierges à leurs fenêtres. Une soirée d'hommage va être organisée à l'Opéra de Sydney.
En France, la fin hier d'un interrogatoire aux airs de marathon pour Marine Le Pen.
La chef de file du Rassemblement National a passé un jour et demi à la barre dans le procès en appel des assistants parlementaires européens de l'ancêtre de son parti, le FN. Et après avoir été condamné en première instance à 4 ans de prison et à 5 ans d'inéligibilité, qui l'empêche pour l'instant de concourir à la prochaine présidentielle, eh bien Marine Le Pen a infléchi sa ligne de défense, Laura Martel.
Fini le ton souvent péremptoire et le procès en illégitimité des juges. En appel, Marine Le Pen s'exprime avec un calme déterminé la plupart du temps, multiplie les « vous avez raison, Madame la Présidente ». Terminé aussi le déni en bloc de toute infraction. Désormais, la chef de file du RN convient qu'il est possible qu'il y ait eu délit, reconnaît qu'il y a pu y avoir mutualisation d'assistants parlementaires, ce qui est interdit, mais surtout qu'un certain nombre d'assistants d'eurodéputés ont fait bénéficier leur force de travail travail au parti, dit-elle. En revanche, Marine Le Pen dément formellement la thèse de l'accusation d'un système organisé de détournement qui engagerait sa responsabilité en tant que présidente du parti. Il faut analyser au cas par cas, insiste-t-elle. Quant à sa responsabilité personnelle en tant qu'eurodéputée employeur d'assistants, elle admet des négligences mais plaide la bonne foi. Ni elle ni le parti n'ont eu l'intention de commettre un délit, résume-t-elle. Confrontée aux détails des éléments du dossier, Marine Le Pen est apparue plusieurs fois en difficulté, s'en est agacée. La Cour, elle, a parfois semblé dubitative sur ses explications. Contrat, règlement, ça doit vous parler, vous êtes avocate quand même, a ainsi pu relever la présidente. Reste à savoir si cette défense permettra à Marine Le Pen d'obtenir la relaxe ou à minima une peine allégée, à même de sauver sa candidature à l'Élysée.
Et je rappelle que la prochaine présidentielle en France doit se tenir en 2027.
Ce sera fin 2026 en Guinée-Bissau.
Le 6 décembre précisément, même chose pour les élections législatives. C'est la junte militaire qui l'a annoncé hier, 2 mois après le coup d'État qui a renversé le président Oumaro Sissoko Embalo, à la veille justement de la proclamation des résultats de la dernière présidentielle. Précision de Carole Valade.
À en croire le communiqué lu par le porte-parole de la présidence, le colonel Valentin Jaime, toutes les conditions pour l'organisation des élections libres, justes et transparentes sont réunies. Des élections qui marqueront, selon lui, le retour à l'ordre constitutionnel en respectant le délai d'un an fixé par la charte de la transition qui interdit par ailleurs au chef de la junte, le général Orhan Tam, de se présenter. La junte affirme vouloir respecter ses engagements auprès de la CDAO notamment, qui exigeait un calendrier clair et crédible de transition. Mais de nombreux acteurs politiques s'interrogent. Le pays, fragilisé par l'instabilité institutionnelle, aura-t-il le temps, les moyens financiers, les moyens logistiques pour organiser ces scrutins? Plusieurs leaders contactés par RFI réclament en préalable la libération des détenus politiques incarcérés dans la foulée du coup d'État, ainsi que la garantie des libertés publiques. Cette annonce intervient quelques jours après la visite à Bissau d'une mission de la CDAO menée par le président de la Sierra Leone, Julius Maada Bio, président en exercice de l'organisation, ainsi que de son homologue sénégalais, Bassirou Diomaye Faye.
Carole Valade, de plus en plus de violations des droits de l'homme en République démocratique du Congo, c'est ce que nous dit le rapport mensuel du Bureau conjoint des droits de l'homme des Nations Unies, qui cette fois fait le bilan de novembre dernier. 28% de violations en plus par rapport au mois précédent. Ce qui ne change pas par contre, ce sont les provinces où la majorité des cas ont été signalés, les provinces en conflit, le Nord Kivu, le Sud Kivu et en Ituri.
Autre bilan annuel, celui-ci est une première.
En 2025, les énergies renouvelables ont produit plus d'électricité que les combustibles fossiles dans l'Union européenne. C'est ce que nous apprend le groupe de réflexion Ember. Ça n'était jamais arrivé, même si les défis à relever restent quand même nombreux, Simon Rosé.
30% pour l'éolien et le solaire, 29% pour le pétrole, le gaz et le charbon. Un petit pourcent de différence, mais hautement symbolique. Pour la première fois, ce sont bien les énergies renouvelables qui ont été la principale source d'électricité en Europe en 2025. Essor impressionnant des panneaux photovoltaïques, dont la production a augmenté de 20% pour la 4e année consécutive. Quant à l'éolien, c'est la 2e source d'électricité sur le continent. En parallèle, si dans leur ensemble, l'usage des combustibles fossiles diminue, celui du gaz a augmenté. C'est conjoncturel, relativisent les auteurs de ce rapport. Peut-être, mais cela a lourdement grossi la facture des importations européennes en la matière. 32 milliards d'euros ont ainsi été dépensés pour acheter ce gaz, principalement à un pays, les États-Unis, dont dépendent ainsi grandement les Européens. Dépendance coûteuse donc et géopolitiquement risquée, alors que les relations entre Washington et les 27 n'ont jamais été aussi tendues. C'est la conclusion des experts d'Ember qui poursuivent en notant qu'en la matière, transition énergétique et souveraineté vont de
Simon Rosé, un tout petit mot de football pour vous signaler la dure soirée des Marseillais en Ligue des Champions, battu 3-0 par Liverpool. L'OM jouera son ticket pour les barrages la semaine prochaine contre Bruges. Le Bayern Munich de son côté a assuré sa qualification pour les 8e en battant les Belges de l'Union Saint-Gilloise 2-0.
Merci Gaëtan Plenet. RFI Matin, bonjour à vous. Si vous nous écoutez en direct à la radio, sur votre téléphone, que vous nous suivez sur notre chaîne YouTube, bienvenue. Ça y est, notre tour du monde de l'actualité mondiale démarre, et ce jeudi 22 janvier 2026, au lendemain d'un nouveau revirement de Donald Trump. Demi-tour, pas de côté, qui sait comment le qualifier? On va essayer de comprendre ce qu'il s'est joué hier dans les couloirs du forum de Davos. Fini les menaces douanières et militaires. Les États-Unis parlent maintenant d'un cadre d'accord avec l'OTAN sur le Groenland. Qu'importe, les Européens se réunissent ce soir. Dans quel but? On posera la question à 8h à Pierre Benazet, correspondant d'RFI à Bruxelles. On va essayer de comprendre la situation, en tout cas d'avoir un point de vue d'ensemble avec le service international d'RFI et avec votre invité aussi, Arnaud Pontus. Bonjour Arnaud.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
À 7h20, vous recevez Philippe Etienne, ancien ambassadeur de France aux États-Unis.
Oui, Philippe Etienne publie ses mémoires, le Sherpa, témoignage de l'ancien monde, le monde des relations internationales régi par le droit. Mais Donald Trump était déjà dans le paysage. Philippe Etienne, avec ses plus de 40 années de carrière diplomatique, ses expériences à Bruxelles, Berlin, Paris et Washington, va nous aider à comprendre ce que nous sommes en train de vivre. Cette crise sans précédent entre l'Union européenne et les États-Unis, ce bras de fer autour du Groenland, avec des menaces et des volte-face. L'annonce de ce cadre d'accord par Trump marque-t-elle la fin de la crise? Quelle attitude adopter face à l'imprévisible président des États-Unis? Quelles leçons doivent tirer les Européens?
Faites-moi votre plus gracieux sourire. J'en ai gros sur le cœur à vous dire. J'suis en veine de sincérité. Ce que je laissais dans le nez, ces mufles qui saoulent notre concurrence ont créé une source de souffrance, un genre légal d'assassiner. Rendez-moi mes 20 sous. Car j'ai passé ma belle jeunesse à me voir pousser des dents de sagesse quand j'avais rien à me foutre dessous. J'ai fait tous les métiers d'esclave, cependant j'ai jamais pu gagner. Ma boostify et mon loyer. À présent me v'là une épave. J'ai le poil d'herne des bêtes mal nourries. La dèche m'a fait la gueule flétrie. Ma jeunesse reste étiolée. Je pourrais jamais m'en consoler. Même si qu'un jour je tournais aux riches. Par un effet de votre bonté. Ce jour-là, je ferai mettre une affiche. On cherche à vendre un cœur gâté. Mes potos, combien m'ont trahi. Pourtant, m'en reste quelques-uns de fidèles. Mais pour la mouise, ils me gagnent la belle. C'est comme un syndicat de failli. Des amours mignons m'ont pâli. Et la vie les a massacrés. Mes mains les ont ensevelis. Mes yeux les ont beaucoup pleurés. Je suis prêt de périr. Et v'là ma peine, elle est bien vraie. Quand un malade, il a une plaie. Faut-il rien faire ou la guérir? Et je me vois comme à l'ambulance du champ de bataille de mes douleurs. Faut-il toujours têter ses pleurs et bouffer le pain de l'obéissance? Printemps me saoule à son tour. Mon sang, ça n'est plus de l'eau de lessive. J'ai des bécots plein les gencives et j'ai les rognons pleins d'amour. Je le sais que c'est la fête et que le temps d'aimer il est venu. Qui ferait même bon d'aller tout nu avec au bras une gigolette pour faire la culbute dans les foins sans culbutant et sans témoin. Mais outre que je suis trop mal frusqué, j'ai pas de peste pour en embarquer. Aucune avouerait de ma tristesse. Vous avez de l'instruction. Pourquoi qu'il y en a qu'on des maîtresses? Malgré qu'il n'ait pas de position. Je suis le fils des villes, nom de mon village. Si j'ai des envies, des besoins, c'est la photo grand magasin à leurs magnifiques étalages. On entend Jeanne le boulanger, comme si qui serait prêt de son trépas. Et ses soupirs me font songer qui fait du pain où je mordrai pas. Quoi il faut dire, quoi il faut faire. J'ai même plus la force de pleurer. Je sais pas pourquoi je suis sur la terre et je sais pas pourquoi je m'en irai. Quoi il faut dire, quoi il faut faire. J'ai même plus la force de pleurer. Je sais pas pourquoi je suis sur la terre et je sais pas pourquoi je m'en irai. Sans vous commander, là que ça me reprend, y'a pas d'offense. Je voudrais comme dans ma petite enfance coller mon slip sur deux nénés sans que ça vous froisse. Je vous tends mon cœur comme la pucelle. Et puis mes bras chargés d'angoisse, lourds du malheur universel. Car si j'étais seul à la dure, je ne vous poserais pas tant de pourquoi. Mais le plus affreux de l'aventure, c'est qu'ils sont des millions comme moi. L'homme est pas fait pour la misère et contrarier ses beaux désirs. Ni pour que ses franges le force à faire des travails noirs et sans plaisir. Car ils s'enferment dans des usines des 40 et des 50 ans, dans des bureaux, des officines, alors que les cieux sont éclatants. Si vous existez, donnez-nous la moelle d'être libre et de remettre tout en équilibre, suivant la grâce et la bonté. Donnez-nous la liberté. Donnez-nous la liberté. Donnez-nous la liberté. Et quant à moi, pour le présent, je voudrais que mes fins soient assouvies. Je veux plus m'arner, je veux vivre ma vie. Et tout de suite, pas dans 10 ans. Je suis sur la terre, c'est pour y vivre. J'ai des poumons pour respirer, des yeux pour voir, non pour pleurer. Un cerveau pour lire tous les livres, un estomac pour le satisfaire. Un cœur pour aimer, non haïr. Des mains pour cueillir le plaisir. Et non turbine, et pour mes frères. Souper des faiseurs de système, ces économistes distingués. Des faiseurs de loi qui battent la flemme. Toute loi est tremble une liberté. Souper des rois, souper des maîtres. Des parlements, des papes, des prêtres. Et comme j'ai pas d'autre bien que ma peau, il est tout choisi mon drapeau. Souper des villes, des royaumes, où la misère fait ses monomes. Souper de ce qui est civilisé, car c'est le malheur organisé. Nos pères ont assez travaillé, et bien assez égorgillé. L'homme de notre temps faut qu'il se repose et que l'existence lui tourne en rose. Si vous existez, donnez-nous la force d'être libre et que mes souhaits s'accomplissent. Si vous existez, car au printemps, c'est ce que vous faites. Alors que la vie est en fête, il serait peut-être bien bon d'être une bête ou riche et surtout bien aimé. Et que mes souhaits s'accomplissent, ça serait bien bon si ce n'est justice. We'll be right back.
actif.
Ça peut arriver de faire une fixette à un moment donné sans pour autant savoir pourquoi. Tu t'abandonnes totalement à l'univers tout puissant et tu te laisses dériver avec le courant.
102.4 FM.